Loïc Tassé, politologue. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Discours, sur l'état de l'Union de
oui,
Donald Trump ce soir?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on attend?
Écoute,
non, mais
c'est
ça,
ouvert,
c'est le fameux,
hein?
Ça, c'est le fameux discours dont on a parlé, toi et moi,
oui.
Qu'il voulait faire pendant que le gouvernement était fermé. La Madame Pelosi a dit non, tu ne viendras pas.
Il parce que c'est sur invitation.
Oui, oui.
C'est elle qui invite
oui.
le président à venir en chambre. Et elle a dit, nous ne vous invitons pas tant que le gouvernement sera fermé.
Et là, le gouvernement étant ouvert, il va
elle
pouvoir livrer son discours.
Exactement.
Et on attend quoi?
Ben, ça, c'est une boule de cristal. Hein. Écoute, on peut s'amuser à ça, mais je pense que il va avoir deux types de sujets. Il va y avoir, on s'attend à ce qu'il y ait des sujets qui rallient tout le monde, de ralliement à la nation. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de sujets internationaux là-dedans. Il va se vanter de la Corée du Nord, fort probablement, de ce qu'il fait en Corée du Nord, en rapprochement avec la Corée du Nord. C'est vrai, ça s'est fait cette année. Il va parler des négociations avec la Chine, la dureté qu'il a face à la Chine. Il va dire les négociations avancent, etc.
Parce que je prends une position de fermeté.
Oui, il faut s'attendre. Il va se vanter du nouvel ALENA aussi, avec le Canada et le Mexique. Ça, je pense qu'on peut s'attendre à ça. Il va probablement parler un peu du Venezuela. Il va probablement parler du retrait des troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan. Mmh. C'est une de ses promesses. Ça, c'est des choses à l'international dont il va parler. Il va probablement aussi parler du coût des médicaments, de la performance économique des États-Unis.
Qui est bonne.
Qui est bonne.
Ah ouais.
Ça, on s'attend à ce qu'il parle de ça. Ça, c'est des sujets qui font relativement consensus aux États-Unis.
Mmh.
Mais il y a plein de sujets de division. C'est sûr qu'il va essayer de rentrer dans les démocrates parce que quand même, il prépare ses élections depuis le jour où il a gagné ses dernières élections présidentielles. Je pense qu'il est en préparation de l'élection depuis son investiture. Alors, il va parler de la fermeture du gouvernement. Je suis certain qu'il va essayer de faire porter la faute aux démocrates. Certain. Le mur, il va revenir sur son mur. Il va parler des immigrants, etc. Mais ce qu'on surveille, en fait, c'est qui va lui répondre. Et c'est Stacey Abrams, qui est une jeune femme noire qui, paraît-il, je l'ai pas entendue, puis je vais la découvrir ce soir parce que je vais l'écouter.
Oui.
Et d'une éloquence incroyable,
ça, c'est
une oratrice.
Est-ce qu'elle fait partie des candidates?
Elle est démocrate.
Non, oui, bien sûr, mais est-ce qu'elle fait partie
non.
de toutes ces démocrates qui se sont déjà annoncées pour l'investiture démocrate?
Non, je ne crois pas qu'elle soit annoncée pour l'investiture, sauf erreur. Là.
Non, je pense qu'elle pourrait pas, en fait, parce qu'ils auraient l'air de privilégier une candidature. Là.
Oui, puis oui, c'est ça.
Alors,
elle est jeune aussi. Je pense que ça prend un peu d'étoffe avant de proposer sa candidature. Mais encore une fois, elle a de grands talents d'oratrice. C'est elle qui était candidate chez les gouverneurs, au poste de gouverneur en Géorgie. Elle n'a pas été élue, mais on en dit beaucoup de bien. Il y a un danger, remarque, pour les démocrates, c'est d'être trop identifié aux minorités aux États-Unis. Il faut qu'ils fassent attention avec ça aussi.
Ou encore trop identifié à leur électorat traditionnel, parce que l'électorat noir, on s'entend, c'est un électorat très, très démocrate.
De minorité, c'est ça que je voulais dire
oui,
par
oui,
là.
Oui, bien sûr.
Donc, on va voir ce que ça va... Écoute, on s'en reparle demain. Moi,
bien sûr.
J'écouterai ça avec plaisir.
Ben oui, on compte bien là-dessus.
Oui, absolument.
Parce qu'on ne va pas nécessairement tous l'écouter. Où on ne va pas nécessairement se rendre jusqu'au bout.
Ben, ça,
alors,
c'est
toi,
malheureusement.
Ça, c'est ton karma, mon
oui,
gars.
Oui, je suis obligé.
C'est ton karma.
Mais je pense que ça va être relativement intéressant.
Très bien, très bien. Parle-nous d'ailleurs, dans le prolongement de ce que tu viens de nous dire, là, le Sénat qui a approuvé un amendement qui critique la politique de Trump en Syrie, c'est ça?
Oui, et puis pas par une faible marge, à 70 contre 26 sénateurs, on critique la décision de Trump de retirer les troupes américaines de Syrie. Et on se rappelle que Trump a décidé de retirer ses troupes de Syrie à la suite d'une conversation avec Erdogan. Il semble l'avoir convaincu, ce très cher Erdogan,
le président
de Turquie, qui lui, évidemment, veut écraser le plus possible tous les Kurdes et en Turquie et à l'extérieur de la Turquie. Et donc, on dit que le retrait précipité des États-Unis de Syrie et d'Afghanistan pourrait mettre en danger les progrès obtenus ainsi que la sécurité nationale.
Parce qu'on se rappelle, on l'avait appris, si je ne m'abuse, par un tweet. Hein?
Il avait annoncé,
je pense, un matin. On a vu un tweet passer, puis là, il annonçait le retrait des troupes américaines. Puis là, il y a un paquet de monde qui se sont regardés, puis mais ça sort d'où, cette affaire-là?
Sais-tu qui s'est regardé le plus? On l'a appris aujourd'hui. C'est les généraux américains, parce qu'il ne les a pas consultés. Devant le Sénat américain aujourd'hui, le général Votel, qui est le général qui est en charge de toutes les armées, on sait que c'est Donald Trump, le président américain,
qui est
bien sûr le chef des armées, mais juste en dessous de lui, le général Votel a dit « Nous n'avons pas été consultés du tout ».
Oh oh.
Et on sent que les généraux ne sont pas du tout contents
ben
de ne pas avoir été
clair,
consultés.
C'est
un coup de tête de Donald Trump qui a décidé un beau matin de faire ça.
Très bien, mais ça, c'est un témoignage qui est quand même percutant.
Écoute,
là, parce que là, on
70
a la
contre 26 ouais, en ouais, plus, ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de républicains qui ont voté du côté de l'amendement. En fait, ça avait été apporté par les républicains. Il n'y a que 3 républicains qui ont voté contre cet amendement-là.
Eh bien, OK. Parle-nous un petit peu de la journée de grève générale en France pour appuyer les Gilets jaunes ou en tout cas dans le prolongement des manifestations,
Un petit peu, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est une hausse des salaires et puis une meilleure justice fiscale. Ben, c'est la CGT qui appelle à donc... Oui, mais les Gilets jaunes veulent plus que ça. Ils veulent des changements dans la démocratie. Un petit peu plus compliqué
pour les
Gilets jaunes.
D'accord.
Mais donc, c'est la Confédération générale du travail qui a appelé à une grève de 24 heures qui touche surtout la fonction publique, donc le métro, les trains, etc.
Est-ce que c'est suivi?
C'est suivi. Il y a 30 000 personnes, paraît-il, à Paris même, dans les rues.
Bon, ben, c'est pas beaucoup, ça, à l'échelle française.
C'est pas tant que ça, mais il y a 160 manifestations à travers toute la France.
Ah, OK.
Donc, j'attends de voir les chiffres un peu plus, si tu veux.
Oui,
mais
oui.
C'est quand même... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres qui se sont joints au mouvement. Il y a Force ouvrière, il y a Solidaire qui s'est joué à ça, la France insoumise, et il y aurait des Gilets jaunes et des retraités aussi qui se seraient un peu joint à ce mouvement de manifestation. De manière générale, Macron est accusé de s'en prendre aux petites gens et donc c'est pour ça que les gens protestent aussi.
OK, très bien. Parle-nous un petit peu d'Haïti. Parce qu'on a beaucoup de concitoyens d'origine haïtienne qui nous écoutent.
Oui. Alors, il y a du nouveau dans l'affaire Petrocaribe. On se souvient que c'est ce fonds immense d'au moins 2 milliards de dollars qui avait été prêté pour 25 ans par le gouvernement vénézuélien au gouvernement haïtien pour que Haïti se relève de tous ces problèmes. Et cet argent, les Haïtiens n'en ont pas vu la couleur, ou en tout cas, il n'y a que quelques Haïtiens qui en ont bénéficié. Ça ne s'est pas rendu dans les rues auprès des gens. Donc, ça a fait créer un grand scandale. Le gouvernement a révélé jeudi dernier un rapport de 250 pages, un audit, qui énumère les fautes et les violations de la loi dans la gestion du fonds. Et donc, l'État a porté plainte pour dilapidation des fonds. Et ça, c'est intéressant comme mouvement.
Donc, il y a eu corruption.
Bien entendu.
Corruption.
Il y a 2 anciens premiers ministres qui seraient dans la mire, ainsi qu'une dizaine de membres de leur gouvernement qui seraient dans l'enquête. En vérité, il y a probablement beaucoup plus de personnes qui ont été arrosées par ce fonds et par la corruption. J'ai bien l'impression que la douzaine de personnes qu'on cible sont plus des boucs émissaires qu'autre chose.
Mais si tu veux... en même temps, 2 anciens premiers ministres qui se seraient engraissés, aux dépens des Haïtiens, on s'entend que ce ne serait pas la première fois. Là.
Non. Malheureusement,
hein?
Malheureusement. Mais tu sais, ça a quelque chose de salutaire, tout ça, sur la population haïtienne. À toute chose, malheur est bon, comme on dit. Et ici, c'est les Haïtiens commencent à cesser de blâmer les étrangers pour tous les problèmes du pays. Tu sais, c'était la rengaine, la ritournelle. Chaque fois que quelque chose allait mal, c'est la faute des Américains, la faute des étrangers. Tout d'un coup, les Haïtiens se rendent compte que oui, en effet, malheureusement, une grande partie de leur élite est largement corrompue et incompétente. Et ils sont mécontents, ils descendent dans la rue. Et je pense que c'est le début vraiment d'un mouvement qui pourrait peut-être apporter quelque chose en Haïti.
Intéressant. En 30 secondes, une enquête de... C'est quoi? C'est du journal Libération, c'est ça?
C'est un reportage de chez Libération qui dit « Écoutez, c'est merveilleux ce qui se passe en Égypte. Il y a de plus en plus de femmes qui renonceraient à porter le hijab. » Et on sait qu'en Égypte, il y a 20-30 ans, il n'y avait presque aucune femme qui portait le hijab.
Mais les frères musulmans...
Les frères musulmans ont fait
très...
des pressions extrêmement fortes. Et ça change maintenant, à tel point qu'à la télévision, on voit des femmes non seulement qui ne portent pas le hijab, mais qui sont en décolleté aussi. Ce qui est tout à fait permis par la loi. Des ministres, des députés, des fonctionnaires commencent à délaisser le hijab aussi. Et donc, il y aura un mouvement. C'est très important parce que l'Égypte, c'est le centre culturel du monde arabe. Et donc, si en Égypte, on commence à se libérer du hijab enfin, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle.
C'est intéressant.
Je ne sais pas quand ça va arriver au Québec, par exemple.
C'est intéressant. Ah ben là, on a tout un autre débat, nous ici, qu'est-ce que tu veux. Et on va beaucoup en parler ce printemps parce qu'il y aura ce projet de loi déposé par le gouvernement de la CAQ. D'ailleurs, Jean-François Roberge, là, qui devait faire un point de presse sur les signes religieux, on m'a dit qu'on en sait un petit peu plus, là. Oui, on va pouvoir le dire au retour, peut-être? Très bien. Au retour, je vais vous dire de quoi il s'agit. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui doit prendre la parole sur la question des signes religieux. Tout de suite après la pause.